Bonjour à tous. D'abord, je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour respirer, comme l'a dit Monsieur Vinquin, et prendre le temps, ce qui est très très rare dans notre métier, d'échanger avec des gens qui ont beaucoup à vous apporter. Je dis beaucoup à m'apporter en particulier parce que, comme vient de vous le dire Martine Marslov, que je remercie chaleureusement de m'avoir invitée à ce séminaire, je ne suis pas sûre, en tant qu'inspecteur général de lettres, d'être la mieux placée pour vous parler de création d'art numérique. Je ne suis ni une spécialiste des arts numériques, ni d'ailleurs une spécialiste d'histoire des arts, même s'il est vrai que j'ai depuis très longtemps, Emmanuel Souchier ici présent le sait, développé une réelle curiosité pour ces deux domaines. Je peux quand même témoigner de l'intérêt croissant qui est accordé par l'institution scolaire au déploiement du numérique dans l'espace éducatif, non seulement parce qu'il touche l'ensemble de nos pratiques d'écriture et de lecture, mais parce qu'il est un levier d'innovation et une source de réflexion inestimable sur nos pratiques pédagogiques. Donc à ce titre, et pour ma part, je perçois bien l'immense potentiel de créativité et d'exploration que constitue le numérique pour en particulier la création littéraire, mais aussi pour l'enseignement des lettres. Et c'est un champ je le vois quand je vais dans les classes, on va encore, même à l'inspection générale, on prend le temps encore d'aller dans les classes. C'est un champ qui s'élargit chaque jour et qui nous réserve bien des surprises parfois, et dont les retours et les enjeux dans le domaine donc de la pédagogie sont vraiment considérables. Il est certain en effet que il y a toujours eu un lien direct et étroit entre les pratiques sociales d'écriture et de lecture et les modes d'enseignement, entre ces pratiques, les technologies qui les supportent, les représentations que la société se fait de l'écriture et de la lecture et la manière dont on enseigne à l'école. Le livre en particulier, nous le répétons souvent, en particulier lors des colloques sur les métamorphoses du livre, le livre dans sa forme close, sa structure linéaire, séquentielle, assignée à format, comme nous le disions, organisée en chapitres, a été pendant des siècles donc le modèle, le support dominant de l'enseignement, et sa forme a déterminé une organisation du savoir et un mode essentiellement magistral d'accès aux connaissances. Le livre a façonné notre imaginaire culturel, il a engendré des modalités de transmission, des modalités d'apprentissage, et je pense donc qu'il est indispensable aujourd'hui que les professeurs et les élèves dans le cadre de leur scolarité conduisent une réflexion sur ce lien étroit qu'il y a entre toute écriture, ce lien qui rend toute écriture plutôt solidaire de son support, ce qui signifie qu'un type de support détermine ou et autorise un certain type, un certain genre, une certaine forme d'écriture, et qu'inversement, d'ailleurs, certains types d'écriture privilégient certains supports. C'est dans les deux sens. Donc aujourd'hui, avec les nouveaux médias numérisés, l'irruption de ces nouveaux médias numérisés dans l'école, et je ne doute pas qu'ils vont se généraliser et pas simplement faire irruption, cette irruption nous pousse à réfléchir à la manière dont se modifient en profondeur nos modes de production, nos modes de transmission, nos modes de réception aussi de l'écrit, et comment ces médias donc transforment dans le même temps nos pratiques scolaires. Alors évidemment, je vais laisser aux experts, aux écrivains, aux professeurs qui vont intervenir pendant ces 4 jours le soin de définir plus précisément que moi ce qu'est la littérature numérique. Au fond, je ne sais pas très bien, mais nous allons y réfléchir. Je vais leur laisser le soin de nous faire comprendre en tout cas comment elle fonctionne, quels sont ses présupposés, en nous faisant, je l'espère, découvrir les multiples facettes de leur création. Mais puisqu'il s'agit d'une communication d'ouverture, ce que je vais faire, c'est simplement essayer de poser quelques questions qui me semblent susceptibles d'ouvrir la réflexion et les échanges, et puis peut-être de tracer quelques perspectives pour l'école dans un deuxième temps. Donc, je poserai 2 grandes questions, ce sera les 2 grandes parties. La première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui peut caractériser ces nouveaux modes d'écriture émergents avec le numérique, les œuvres présentées donc par les praticiens vont sans doute nous aider à répondre, mais je tenterai d'approcher cette question de mon point de vue, c'est-à-dire sur le plan théorique et pédagogique. Et la deuxième grande question, c'est de savoir comment et dans quelle mesure ces nouvelles modalités d'écriture peuvent être prises en compte dans la pratique scolaire, comment elles peuvent ouvrir de nouveaux horizons aux élèves, ou bien inversement, peut-être conforter, consolider, faire redécouvrir d'anciens usages, d'anciennes pratiques ancrées dans des pratiques plus traditionnelles, des pratiques qu'elles viennent prolonger, enrichir. Alors, avant quand même d'aborder ces deux grands points, et pour appuyer mon questionnement, j'ai envie de faire quelques remarques liminaires. Trois remarques que je vais un petit peu développer parce qu'elles pourront être ensuite réinvesties dans le reste de mon exposé. La première remarque que je me fais, c'est que je me demande s'il n'y a pas déjà de la lecture et de l'écriture numérique avant et en dehors de la littérature numérique ou des créations numériques à proprement parler. Quel auteur aujourd'hui n'écrit pas ou ne lit pas sur son écran d'ordinateur, n'a pas recours à minima au traitement de texte, ne fait pas de recherche sur le web pour nourrir sa pensée ou son imaginaire? Quel auteur n'est pas connecté à des réseaux aussi? Le traitement de texte notamment, avec ses fonctionnalités multiples qu'on connaît, a révolutionné vraiment pendant des années, en quelques années d'ailleurs, notre rapport à l'écrit, nos façons d'exposer, d'organiser nos idées, nos représentations, nos modes même, nos façons même de penser. Nous n'avons pas toujours conscience d'ailleurs, les gens qui utilisent presque tous le traitement de texte, mais les écrivains, eux, en ont conscience. Ils le savent, ils disent souvent qu'ils n'écrivent pas les mêmes choses, ou en tout cas sur papier et sur écran, et que ces deux supports correspondent à des moments différents ou à des étapes différentes de leur travail. On entend souvent ce type de témoignage, et je crois que c'est vraiment pas indifférent. Ce que les technologies numériques nous ont d'abord apporté, c'est bien un dispositif technique qui nous permet de lire et d'écrire, écrivain ou pas, de communiquer, bien sûr, d'une façon qui nous est devenue pratiquement naturelle, et qui aujourd'hui semble aller de soi, et qui pourtant nous impose ses gabarits, ses modèles, même si, bien sûr, le perfectionnement des logiciels offre une très large palette de possibilités de personnalisation, d'appropriation. Et dans ce sens, on peut dire donc que les technologies numériques, au même titre que les autres technologies de l'écriture, ne sont pas de simples outils, vous le savez, mais définissent véritablement des modalités de création. La nouveauté, peut-être, par rapport aux précédentes technologies, c'est que ces modalités, les algorithmes qui les sous-tendent, sont de moins en moins visibles ou de moins en moins compréhensibles pour l'usager. Et par conséquent, en ce qui concerne la création, justement, entre les écrivains, les artistes, s'ils veulent avoir prise sur leur production, s'ils veulent faire œuvre d'auteur, ils doivent en même temps être des créateurs d'algorithmes, des modélisateurs, des designers, etc., pour déjouer et se jouer des formes générées ou imposées par la machine. Ou du moins doivent-ils s'associer souvent avec des informaticiens, avec des designers, avec des graphistes, avec des techniciens, on le voit, du son, de l'image, pour faire œuvre créative commune. Alors ce constat, ce premier constat, me conduit à ma deuxième remarque liminaire. N'est-ce pas ce qu'ont toujours fait les avant-gardes artistiques qui ont utilisé et mis en avant les aspects matériels et techniques de leur production jusqu'à les exhiber dans l'œuvre finale, si on peut parler d'œuvre finale d'ailleurs? Alors on pense évidemment ici à l'avant-garde russe, au futurisme et bien sûr à l'Oulipo, mais je laisserai à Emmanuel le soin d'en parler, à la poésie concrète, visuelle, sonore, mais aussi à des poètes comme Francis Ponge, qui parle dans son recueil, que vous connaissez peut-être, « Pratique d'écriture ou l'inachèvement perpétuel », qui est accompagné, un joli recueil accompagné de 16 dessins de François Rouen, Il parle de faire jouer, je cite, hein, faire jouer les expressions en dehors de leur signification, prendre les mots de plus haut, les considérer non plus comme signes, ni tout au contraire comme idées même, mais les considérer comme chacun un objet, une trace noire sur le papier, une suite de sons dans le vent. J'aime beaucoup cette expression, une suite de sons dans le vent, en pensant le moins possible à ce qu'ils veulent dire. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire la suite, juste un petit paragraphe. Et en effet, dit-il, j'imagine avec un attendrissement d'esclave, le sauvage à qui tout d'un coup apparaîtrait au cours d'une visite à nos établissements, cette serre incomparable, ces surprenantes sécrétions, ces matières extraordinaires que l'on appelle les mots. Y verrait-il une propriété du papier ou du marbre ? Y entendrait-il une modulation du vent ? Ou plutôt, n'ayant aucune connaissance du geste humain qui les laisse, ni de la mécanique du gosier qui les émet, saurait-il simplement les distinguer de leur lieu, dans l'étendue du regard, de leur minute dans le temps qui passe à son oreille et par son être ? Vous voyez tous les échos que ce texte produit en regard de tout ce qui est création numérique, poésie concrète, etc. Donc je passe donc pour revenir à cette deuxième remarque liminaire qui est qu'il y a bien eu avant la révolution du numérique et de l'internet et avant toutes les formes de création qui en découlent des formes de programmation de l'écriture. Le sonnet par exemple, est-ce que le sonnet n'est pas une forme de programmation de l'écriture poétique et aussi des genres de littérature à contrainte, programmée ou programmable, précurseur dans une certaine mesure de la génération automatique des textes. Ces œuvres peuvent soit relever des jeux d'écriture, comme on vient de l'évoquer avec les expériences de l'Oulipo, soit découler d'une modélisation, voire d'une industrialisation de l'écriture. Je pense ici, bien sûr, au feuilleton, au roman feuilleton, à ce que Sainte-Beuve, évoquant la presse à grand tirage, qui a permis, vous savez, au feuilleton de se développer sous la Restauration, dans son article sur la littérature industrielle, paru dans la Revue des Deux Mondes, en 1839, ce que Sainte-Beuve donc qualifiait d'invasion de la démocratie littéraire. Là aussi, je cite, ce sera de moins en moins un trait distinctif que d'écrire et de faire imprimer. Avec nos mœurs industrielles, tout le monde, une fois au moins dans sa vie, aura eu sa page, son discours, son prospectus, son toast, sera auteur. De là à faire un feuilleton, il n'y a qu'un pas. Pourquoi pas moi, se dit chacun. Bon, je vous laisse méditer et je passe à ma troisième remarque liminaire et dernière. Avec le numérique, nous dit-on, les contenus tendent à se désolidariser de leur support et les frontières entre les différents genres ou formes sémiotiques, textes, images, sons, tendent à disparaître. Or, cette tendance me semble, elle aussi, bien antérieure au développement de l'écriture numérique. On pourrait dire qu'il est constitutif de l'écriture même depuis ses origines et que le numérique ne fait que réactiver certains caractères natifs mais oubliés de l'écriture que l'on retrouve à tous les moments de l'histoire, qu'il s'agisse des enluminures, des lettres ornées, des idéogrammes, des formes variées de calligraphie, de typographie ou plus proche de nous des logogrammes et des calligrammes divers. C'est, disait Nicolas Taffin lors de notre colloque à la BNF, c'est ce dialogue subtil entre le lisible et le visible, entre la forme et la contre-forme, qui se joue dans l'espace de la page, que les éditeurs industrialisés ont progressivement délaissé, qui refait surface avec la numérisation de la sphère typographique, qui semble donner à la lecture les moyens de renouer avec l'écriture incarnée. Donc, vous savez que Nicolas Taffin est concepteur graphique et éditeur et qu'il préside les rencontres internationales de Lure, donc un typographe qui nous dit ça, c'est très intéressant. Le numérique porte donc, à mes yeux, à son paroxysme, le mouvement de résurgence de la lettre et de l'écrit comme objet concret qui se donne à voir au moins autant qu'il est au service de la signification, pour résumer mes trois remarques. Il en souligne le caractère visible, ramenant ainsi l'écriture à sa matérialité, comme Francis Ponge le préconisait dans ses pratiques d'écriture. Alors évidemment, on pourrait rajouter d'autres remarques à ces trois remarques liminaires, réfléchir par exemple à la dimension du geste, aux différentes postures du corps induites par le numérique, en particulier avec l'arrivée des tablettes tactiles maintenant. Mais on aura certainement l'occasion d'en parler dans ces journées. Donc je m'arrête là pour l'instant pour revenir à quelques questions essentielles que nous pose le numérique, à la façon dont, selon moi, il agit sur la création, à ce qu'il apporte d'inédit surtout, ou bien au contraire, à la façon dont les usages entrent en résonance avec des formes et des pratiques héritées de la tradition. Donc, mon premier point est qu'il nous faut le premier point qu'il nous faut considérer, me semble-t-il, c'est la question de l'auteur. Alors là aussi, je vais passer très vite, mais on peut aborder cette question sous deux angles au moins. Les formes d'écriture collaborative, interactive ou hypertextuelle, induites donc par des outils numériques, tendent à faire du lecteur un auteur à part entière. La question que l'on se pose dès lors est celle-ci. Le lecteur ne tend-il pas, dans un univers numérique, à devenir définitivement l'auteur de toute production écrite, qu'il en soit la cible captive, d'ailleurs, ou le co-auteur qui l'enrichit et qui la prolonge. Il est clair, en tout cas, que la notion d'un auteur unique de l'œuvre est largement mise en cause. La deuxième entrée sur cette question de l'auteur, ce sont les formes d'écriture générative ou automatisées par un système donc informatisé, l'ordinateur, les logiciels. Donc ces formes d'écriture donnent un rôle essentiel à ceux qui configurent les dispositifs techniques. Dès lors, on peut se demander si c'est la machine, le créateur d'algorithmes, le prescripteur, qui tend à devenir l'auteur. Ou en tout cas, il n'est pas légitime qu'il revendique d'être aussi l'auteur. Bon, je pose simplement les deux questions. Lorsqu'on regarde un certain nombre d'œuvres numériques, si on les observe, on perçoit les limites tout de même de ce genre d'assertion, qui est stimulante sur le plan théorique, mais dans la pratique, l'auteur d'une œuvre numérique reste encore, d'une œuvre numérique ou d'une œuvre hypertextuelle par exemple, anticipe les réactions de son lecteur. Il balise les parcours, il définit les cadres de l'intervention du lecteur. Il a toujours, d'une certaine manière, prise sur son texte, même s'il joue, bien sûr, des phénomènes de prise et de déprise, pour employer la terminologie de Serge Bouchardon. Et même si l'on prend l'exemple plus trivial des blogs, où le scripteur est largement contraint par un système éditorial préformaté, des phénomènes multiples d'appropriation, parfois même de détournement, mais au moins d'appropriation se font jour, issus à la fois des possibilités variées d'exploitation et de personnalisation, nous dit-on, de l'outil. Mais on constate chez les jeunes que ces cadres stimulent souvent la créativité plus qu'ils ne la brident. Et que de nombreuses personnes qui n'auraient jamais pu ou su s'exprimer dans l'univers de l'imprimé se saisissent de cet instrument comme d'un levier d'expérimentation scripturale. On retrouve bien là la tension caractéristique de l'art, constitutive de l'art, qui est celle entre la tension entre contrainte et liberté. Et puis, la possibilité également d'insérer des liens, d'ajouter des commentaires qui laissent une large place à l'exploitation ou à l'exploration personnelle, à la subjectivité des utilisateurs dans le cadre d'une communauté définie. Tout cela agit comme déclencheur d'écriture qui peuvent s'avérer réellement féconds. Donc je parle de tout ça comme limite quand même à ces assertions qui concernent la question de l'auteur. Donc cette question de l'auteur, elle nous conduit directement à celle du sujet, vous le voyez, et de l'identité du scripteur, c'est mon deuxième point. Celle du sujet et de l'identité du scripteur, les dispositifs techniques d'écriture, comme le blog, les forums, on vient le voir, les wikis, permettent au scripteur de se forger, à travers l'écriture, une identité. Une identité qui ensuite le définit, voire le poursuit, mais qui le rend aussi traçable et reconnaissable, écrire sur Internet, comme l'écrivait Jean Clément dans un ancien numéro de l'ingénierie, des dossiers de l'ingénierie éducative, que vous connaissez sans doute cette publication qui n'existe plus d'ailleurs. Écrire sur Internet, c'est s'exhiber, affirmer son identité face à une communauté. J'ajouterais que c'est mettre en scène les éléments pour se faire reconnaître par cette communauté. Et troisième question, la question la plus difficile, c'est celle qui concerne la question de l'œuvre d'art. C'est la question de l'œuvre d'art. Qu'est-ce qui fait œuvre ? Qu'est-ce qui fait art ? À partir de quand peut-on considérer qu'une production numérique accède au statut d'œuvre d'art ? Dès lors que, par définition, elle s'inscrit dans un inachèvement perpétuel, pour reprendre l'expression de Ponge, dans le flux et l'incomplétude, et qu'elle revendique d'être en constant devenir. Poser la question de l'art, c'est mettre en jeu, on le voit, la temporalité de la création, c'est considérer l'œuvre comme processus plutôt que comme produit, c'est rompre avec l'idée d'unité de l'œuvre, c'est briser les repères traditionnels qui permettent de la reconnaître. Dans le domaine littéraire, nous avions, historiquement, nous avions des lieux et des supports qu'on peut qualifier d'instituants pour l'œuvre de littérature. Un exemple, le livre publié par exemple chez Gallimard dans la collection Blanche accède au statut d'œuvre littéraire parce qu'il est passé par toute une chaîne éditoriale validée, reconnue du public, qu'il constitue bien, cette chaîne constitue bien une chaîne de valeur. Son contenu donc et sa valeur coïncident avec sa forme éditoriale et son support. Mais sur le web, qui crée la valeur ? Où s'achève le texte ? Les systèmes éditoriaux qui définissent les genres rédactionnels et l'organisation des pages web ont-ils un pouvoir instituant en matière littéraire ou esthétique ? À moins qu'au contraire, le conditionnement technique ne prenne le dessus, risquant à tout moment de tuer la valeur littéraire en inhibant la créativité. Je laisse le débat ouvert, bien sûr, je ne vais pas répondre à toutes ces questions, sur ces trois questions, donc celle de l'auteur, celle de l'identité du sujet et celle de l'œuvre d'art, question assez épineuse d'ailleurs qui nous emmènerait dans la complexité, mais qui pourtant me semble correspondre à de véritables problématiques pour réfléchir à la création numérique. Et pour ma part, je crois que les processus de légitimation s'effectuent du côté de la communauté des internautes, qui peut être une communauté de pairs ou d'initiés, capables de se reconnaître entre eux et de fonder la valeur de l'écrit, qu'il s'agisse du reste de sa valeur esthétique, artistique ou de sa validité scientifique, parce qu'on peut dire la même chose des écrits scientifiques et de la manière dont se constitue la science actuellement. Donc voilà pour ma première partie. Dans la deuxième partie, je voudrais donc me poser la question de ce qu'on peut tirer de ces observations et de cette réflexion pour l'école, évidemment. Comment et dans quelle mesure ces nouvelles modalités d'écriture que nous venons d'observer dans la création numérique peuvent être prises en compte et trouver des échos dans nos pratiques scolaires, dans la pratique scolaire. Il est très important que, pour les élèves en tout cas, que les professeurs prennent en compte des pratiques d'écriture qui font désormais partie du quotidien ordinaire des élèves. D'abord pour que ne se creuse pas davantage le fossé, ce fameux fossé entre l'école et la vie, il est évident qu'il faut tenir compte de ces formes d'écriture extrascolaire. En tant qu'inspecteur, parmi les expériences que j'ai pu repérer et observer dans les classes, il me semble qu'il y en a un certain nombre dont l'esprit se rapproche beaucoup de ce que nous venons d'évoquer et qui vont dans le sens de la réussite des élèves. Alors certes, vous allez me dire, toutes ces pratiques que je vais rapidement décrire n'impliquent pas nécessairement l'usage d'un ordinateur, mais les outils numériques, vous allez le voir, contribuent grandement à les développer. Et il en démultiplie les potentialités. Alors, il y en a rapidement cinq types de pratiques. Les supports numériques favorisent d'abord une mise en activité des élèves, en permettant à la fois de formuler les consignes d'écriture de manière plus claire, du point de vue de la forme et des objectifs visés, voire des contraintes à respecter, et en même temps de laisser une réelle marge d'autonomie et d'initiative à l'élève, fondée sur un projet personnel d'écriture. Donc l'élève, dans ces conditions, est mis en situation d'être un auteur, d'être auteur, c'est-à-dire pas un simple scripteur exécutant des consignes ou remplissant des cases, mais un sujet écrivant qui s'approprie les modèles et les contraintes pour produire un écrit personnel. Donc c'est la démarche autonome et créative qui est ici encouragée. Or, on sait à quel point l'initiative et l'appropriation personnelle sont nécessaires à l'acquisition des compétences fondamentales, en particulier celles d'écriture et de lecture. Donc voilà pour le premier point, mise en activité des élèves, permise et renforcée par les technologies numériques. Deuxième point, la possibilité de travailler le texte comme une matière réinscriptible. La possibilité d'en manipuler les composantes, d'en enrichir de l'intérieur les contenus, de revenir en arrière pour l'améliorer, pour le corriger, pour le compléter, donc en dehors de toute dramatisation de l'erreur. C'est indéniablement une chance et un moteur pour les apprentissages. On apprend bien à écrire qu'en écrivant. Vous le savez, vous êtes professeur, et non en appliquant des règles formelles de grammaire. Donc cette pratique qui est favorisée par les outils numériques, qui permettent aussi de garder la trace du travail et des progrès accomplis, a l'avantage de faire percevoir aux élèves les mécanismes sous-jacents à toute écriture, mécanismes linguistiques, stylistiques, rhétoriques, de les faire éprouver de manière pragmatique aux élèves. Elle fait appréhender les contenus d'enseignement comme des processus, là aussi, work in progress, plutôt que comme des connaissances à assimiler. Troisième type de pratique observée, il faut ajouter à cette possibilité liée à l'usage des ordinateurs, celle qu'offre le web. L'accès à des contenus en ligne, la possibilité d'explorer la toile, de prélever et d'intégrer des éléments nouveaux, d'enrichir son texte par des liens, sont sans nul doute d'un apport considérable aussi dès lors qu'ils sont maîtrisés, bien sûr, et balisés. L'élève entre là véritablement dans l'atelier, dans la fabrique de l'écrivain. Quatrième point, je balais rapidement parce que je voudrais que ce soit simplement le point de départ d'un échange. Avec les technologies numériques, on voit se multiplier des pratiques d'écriture collaborative, collective, en classe, et d'ailleurs dans et en dehors de la classe. Elles se fondent sur l'échange, sur la négociation entre pairs. Elles s'enrichissent de commentaires, elles s'enrichissent d'appréciations. C'est ici que s'affirme la dimension sociale de l'écriture, qui est très importante pour les élèves. Dimension qui peut non seulement donner sens aux activités scolaires, mais aussi faire prendre conscience à l'élève qu'en écrivant, en lisant, il s'inscrit dans un réseau de liens sociaux et qu'il fait partie d'une communauté. Écrire, lire, publier participe dès lors d'un même geste, d'un même mouvement, d'un même va-et-vient. Écrire pour se relire et pour se faire lire, lire pour écrire, publier pour être lu, pour écrire en retour. Le numérique rassemble ces trois actions dans un même temps et sur un même dispositif d'écriture-lecture. Et dans cet acte d'écrire, lire, publier, l'élève se construit son identité au sein de sa communauté. Cinquième et dernier aspect, lié au support numérique, qui est une évidence, donc je ne m'y étendrai pas, les possibilités de mixage des formes sémiotiques, c'est-à-dire texte, image, son, vidéo, pouvant se mêler sur un même support, se combiner sur un même support, sans discontinuité, les élèves sont amenés à concevoir leur production comme multimodale, à explorer aussi bien la dimension plastique de l'écriture, sémiotique de l'image, narrative ou poétique du son, ce qui ne peut que contribuer, bien sûr, à élargir leur horizon, à développer leur capacité d'expression et leur imagination, etc. Même si, une dernière remarque, si ce n'est pas ici le sujet, il faut quand même remarquer que toutes ces situations pédagogiques permettent d'éduquer aux médias, comme on dit aujourd'hui les élèves aux médias, ce qu'on appelle aujourd'hui la littératie numérique, de multiples façons. Je fais une parenthèse, vous savez que dans les programmes de lettres maintenant du lycée, l'éducation aux médias est obligatoire, que ça fait partie de l'enseignement des lettres. Ça permet d'éduquer les élèves aux médias, et même si c'est de multiples passions, c'est principalement en les faisant réfléchir sur la manière dont les technologies conditionnent les logiques de création et de production, et comment toute écriture est le résultat d'une tension féconde entre contrainte et liberté. Donc, je m'arrêterai là pour cette présentation, et pour conclure, je dirais que les créations numériques ouvrent véritablement des perspectives passionnantes dans le domaine pédagogique, que les professeurs doivent s'en inspirer ou les exploiter pour aider les élèves à entrer plus efficacement dans les apprentissages, pour leur faire percevoir les différents aspects de genre, de forme, d'action, de programmation qui sont à l'œuvre dans toute création littéraire. Elles peuvent aussi permettre de déclencher ou de libérer l'écriture des élèves, les faire accéder à la compréhension des mécanismes qui régissent toute création. Enfin, elle trace un trait d'union entre les arts, ce qui est fondamentalement un des objectifs poursuivis par l'enseignement d'histoire des arts, me semble-t-il. Je crois qu'à cet égard, donc, l'initiative de Madame Marsloff de consacrer ses journées de formation aux arts numériques va dans le sens de ce dont les enseignants ont besoin aujourd'hui pour s'engager dans des démarches innovantes, pour oser s'engager dans des démarches innovantes. Et vraiment, je la félicite de cette très heureuse initiative. Je la remercie.